France 24.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots, bienvenue dans cette deuxième émission consacrée à la vitalité de la langue bretonne, une émission qui fait partie de la série que la danse des mots consacre à ses langues régionales en partenariat avec la DGLF-LF, la délégation à la langue française et aux langues de France. Hier, nous faisions l'état des lieux de la langue bretonne. Qui est bretonnant? Qui parle le breton? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou de moins en moins? Et aujourd'hui, comme à l'ordinaire, nous allons nous pencher sur des problèmes d'enseignement et de transmission. Et comme pour les autres langues régionales, c'est Lucie Bouteloup qui a mené l'enquête pour savoir comment on faisait pour apprendre le breton ou le transmettre à ses enfants. Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Yvan.
Alors, une question sincère. Je suis breton, je ne parle pas le breton, car mes parents ne m'ont pas transmis cette langue. Mais je souhaiterais que mes trois enfants l'apprennent. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Comment faire?
Alors aujourd'hui en Bretagne, pour que vos enfants apprennent à parler le breton à l'école, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez les scolariser dans le système bilingue classique, à parité horaire, c'est-à-dire 50% du temps en français et 50% du temps en breton. C'est un système qu'on peut trouver dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé catholique. Mais vous pouvez aussi scolariser vos enfants dans les établissements du réseau Diwan qui proposent un enseignement en immersion, c'est-à-dire que les enfants parlent la totalité du temps en breton.
Alors, est-ce que tous les élèves en bénéficient en fait? À qui est-ce que ça s'adresse?
Alors, il faut savoir que l'enseignement à parité horaire et l'enseignement en immersion ne concernent que 17 000 élèves de la maternelle au baccalauréat.
Ce qui est extrêmement peu sur la globalité des élèves qui vivent en Bretagne.
C'est très peu parce que ça ne représente environ que 3% des élèves dans les classes primaires, dont seulement 1,5% pour Diwan. Alors, au secondaire, les chiffres chutent encore plus parce que l'enseignement bilingue, tout réseau confondu, ne concerne plus que 1% des élèves. On parle donc d'une toute petite minorité.
Alors Lucie, il est question qu'il y ait deux lycées Diwan en Bretagne, mais le deuxième va ouvrir ses portes bientôt. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui fonctionne, c'est le lycée de Carhaix, et c'est là que vous avez été mener l'enquête.
Niché au sein d'un écrin de verdure entre le site du Festival des Vieilles Charrues et le parc du château de Kerempuy, le lycée Diwan de Carhaix se prépare comme tous les autres lycées de France à faire passer le bac à ses classes de terminale. Rien d'exceptionnel à première vue, pourtant ce petit lycée de 380 élèves est le seul de France à proposer un enseignement en immersion en langue bretonne. Ici, à l'exception des cours de langue, le breton est utilisé à la fois comme langue d'enseignement de la totalité des matières, mais aussi comme langue de vie au sein de l'établissement. Une langue à laquelle les élèves semblent profondément attachés.
C'est notre langue, le breton. Tout le monde dit que c'est une langue morte, mais moi j'y crois pas. C'est quand même une langue qu'il faut faire continuer de vivre et c'est la langue de nos ancêtres. Donc voilà, je trouve ça important. En plus de la langue, c'est aussi une culture qu'on nous apporte en plus. Et voilà, ça me plaît, j'y suis depuis que je suis petite, donc... En fait, Diwan, c'est un peu comme une grande famille et du coup, c'est difficile de quitter quand on est déjà un peu dans ce monde-là, quoi.
L'aventure Diwan a débuté il y a plus de 40 ans. Anna Varie-Chapalin, qui est l'une des fondatrices et la directrice du réseau sur les 5 départements de la Bretagne, nous raconte comment tout a commencé.
Alors, il y avait une association qui s'appelait Skolan Emzow et qui a été très très importante dans les années 70. Et cette association, en fait, on pourrait la traduire par l'école du mouvement, où il y avait beaucoup d'étudiants, à Rennes et ailleurs, qui faisaient leur travail en breton. C'était un petit peu la rupture par rapport à ce qu'il y avait avant, où il y avait beaucoup de gens qui faisaient des pétitions pétitions pour demander que la langue bretonne soit enseignée, etc. Mais souvent en français. Et là, toutes les filles et les gars qui étaient à Skolan Emsao travaillaient pour la langue bretonne dans un esprit culturel, sociétal. Et Skolan Emsao travaille, fait des cours du soir de breton déjà à l'époque, publie le premier Lucky Luke en breton, établit un agenda en breton tous les jours. Et un jour, en 75, lors d'un stage de Skolan Emsao, les participants à ce stage et les cadres de Skolan Emsao disent que le breton en faculté c'est bien, mais il vaudrait mieux commencer par la maternelle. Et donc on a décidé d'aller voir au Pays Basque, puisqu'on savait que les Ikastola existaient depuis 69. Et donc je suis allée avec une amie à l'époque, en 75, visiter les Ikastola. Et quand on est revenu, on était vraiment persuadés qu'on avait les conditions pour se lancer. On a regardé aussi du côté du Pays de Galles, puisque linguistiquement les langues sont de la même famille, le gallois et le breton, et on est parti. On s'est donc attaqué à la rédaction de la charte, à comment on allait créer les écoles, à recruter à l'époque des enseignants qui n'étaient pas formés mais prêts à tenter le pari avec les parents, et voilà comment ça a commencé. On a ouvert la première école en mai à Lampol Ploudalmézo et en septembre à Quimper. Et ensuite en novembre dans les Monts d'Arrée. Donc ça a été assez vite. Aujourd'hui on en a 47, 6 collèges et un lycée. Et on prévoit l'ouverture d'un second lycée en septembre 2019. C'est-à-dire que l'année à venir, on va former les professeurs qui vont donc ouvrir ce second lycée. Il était important à l'époque de se doter d'une charte, d'un guide, et d'y mettre les valeurs de Diwan. Et donc nous avons décidé d'emblée de noter l'ouverture à tous, c'est-à-dire la gratuité, la laïcité, parce que ça nous paraissait très important, puisque nous étions en train de bâtir un système en fait d'enseignement en breton pour la Bretagne. Donc c'est l'objet de l'article 1 de la charte. Ensuite, tout aussi important de noter que nous n'étions pas des petites écoles parallèles là qui se montaient comme ça, mais que si l'on existait, c'était du fait des carences de l'éducation nationale en la matière. Aucune place à la langue bretonne à l'époque, sinon en matière d'initiation dans des cours hors programme. Et ensuite, bien sûr, les valeurs de solidarité, de neutralité et donc de laïcité, d'indépendance par rapport à tout mouvement quel qu'il soit. Et ensuite, l'implication des parents dès le départ, l'implication dans l'éducation de leurs enfants, parce que ça nous paraissait très important. Et c'est allé au-delà de nos espérances, puisque les parents portent toujours 40 ans après les écoles.
Alors qu'est-ce que ça veut dire justement cette implication des parents? Parce que c'est vrai que c'est une vraie spécificité.
Ça veut dire que alors et encore toujours, c'est la demande sociale des parents qui compte et l'implication des parents qui doivent d'abord créer un comité de soutien pour réunir les finances, parce qu'il faut au moins avoir un an de budget devant soi pour ouvrir une école, parce que une école c'est sérieux. Il s'agit des enfants et il faut qu'il y ait la continuité possible. Donc, les parents s'investissent et les
s'investissent comment ?
S'investissent parce qu'ils font des crêpes, ils font des troc-puces, ils font des fêtes à dimension culturelle bretonne aussi. Et je ne vous raconte pas. Il serait difficile de compter, mais c'est sûrement en tonnes ou en milliers de tonnes le nombre de crêpes qui ont été faites depuis 40 ans. Et donc, ce qui était prévu dans la charte est arrivé, je dirais, de créer une école en langue bretonne, de la maternelle jusqu'aux portes de l'université. On estime qu'on n'apprend pas une langue juste pour la savoir. Et donc, avec nos écoles qui fonctionnent en immersion, ça permet effectivement que les petits en maternelle n'aient pas à apprendre la langue, mais s'en imprègnent de façon naturelle et puissent effectivement la parler. Et la parler entre eux et l'utiliser pour réfléchir, pour créer.
Donc, c'est l'enseignement, mais aussi toute la vie qui va autour.
Voilà, c'est ça. C'est le principe de l'immersion. Et pour ce qui nous concerne, nous, la langue est porteuse d'une culture et de créativité, et ça permet aussi de se sentir bien dans ses baskets avec sa culture bretonne, la culture française et toutes les autres, parce que on est persuadé que lorsqu'on sait d'où on vient, on sait mieux où on va.
l'immersion en langue bretonne implique néanmoins un certain nombre de sacrifices pour les élèves qui intègrent les écoles du réseau et qui habitent souvent aux quatre coins de la Bretagne. Pour favoriser un bain linguistique, les collégiens sont contraints de dormir deux jours par semaine dans leur collège, puis la totalité de la semaine quand ils arrivent au lycée. Mais pas de quoi effrayer Ewen, qui a intégré le lycée Diwan après une scolarité dans des établissements bilingues à parité horaire.
Moi, j'ai un petit peu un parcours atypique parce qu'en fait, ma scolarité jusqu'au collège, jusqu'à la troisième, en fait, j'étais dans une école publique du Yézek. C'est une école bilingue. Il y avait seulement la moitié des cours en breton et l'autre en français. Et j'ai fait ce choix justement de venir au lycée Diwan pour pouvoir approfondir un petit peu ma connaissance sur le breton et mieux parler cette langue, quoi.
Aller à l'internat, ça te posait pas de problème?
Oh non, justement, je trouvais ça cool, faire des rencontres, être tout le temps à la maison, quoi.
Et c'était pas difficile justement d'intégrer le lycée alors que a priori c'est des lycéens qui se connaissent depuis souvent l'école primaire puisqu'ils ont fait tout leur parcours à Diwan.
Ouais, bah après l'ambiance est plutôt cool dans ce lycée. C'est aussi en apprenant le breton, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est aussi une autre façon de penser pour vivre en société. Et les liens ne sont pas forcément pareils qu'en français. En breton, justement, la langue est plus proche et ça a rapproché, je pense. Ouais. Et on est beaucoup plus amical ou dans une relation, une bonne relation envers tout le monde. Il n'y a pas de rejeté ici. Mais aussi, ce qui est cool du coup, c'est que j'ai un point de vue sur l'école française et l'école en breton complètement. Je peux dire qu'au final, ça apporte quelque chose de faire de l'école en breton. C'est un autre point de vue qu'on peut avoir sur la société.
Pour les terminales, l'immersion suppose également une gymnastique intellectuelle et une organisation particulière. À la veille du baccalauréat, après avoir passé l'ensemble de leur scolarité en breton, les lycéens doivent se préparer à passer leur contrôle final en français. Seule l'histoire géographie, qu'ils peuvent passer en breton s'ils le désirent, et les langues vivantes échappent à la règle. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Diwen et Ewen en terminale scientifique.
Bah, honnêtement, au final, ça revient au même de parler en français, en breton, moi je trouve. Parce qu'en fait, on étudie en faisant des exercices en français et en breton. Donc ça revient au même.
Parce que là, vous avez suivi tout le cours en breton. Vous connaissez aussi tous les termes techniques en français?
Ouais, dans les deux langues, ouais. On peut parler aussi bien en breton qu'en français. Ça pose pas de problème, je pense.
Alors là, par exemple, aujourd'hui, c'était un cours sur quoi?
Bah là, c'était un cours sur des bactéries qu'on avait fait pousser au cours d'avant. Voilà. Et on les étudiait après au microscope.
Et alors, comment on dit bactéries en breton?
Bactéries.
Bactéries.
Comment on dit microscope?
Bah, microscope aussi, c'est des choses. Là,
c'est... Comment on dit éprouvette?
Éprouvette. Ouais, en prouvetten.
Alors typiquement, comment ça va se passer si par exemple, pendant votre examen de SVT, vous voulez dire éprouvette et que vous savez pas comment le dire en français du coup alors?
On trouve toujours un moyen pour passer à côté si on oublie un mot, mais c'est très rare. D'habitude, on connaît quand même les termes en français.
Vous allez réviser des petites listes quand même de vocabulaire ou pas?
Non, moi je veux pas réviser de liste de vocabulaire parce que au final dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la société, on parle pas en breton. Enfin si, justement au lycée on parle en breton, mais autrement dehors, enfin tout ce qui est télévision ou internet, tout est en français. Donc, même les exercices dans nos bouquins sont en français, donc voilà, au final plus, le vocabulaire.
On va pas réviser de liste parce que au final, pour ma part en tout cas, je vais réviser que en français.
Mais c'est-à-dire que là la prise de notes vous l'avez faite en breton ou en français?
En breton, ouais. En breton, mais après on retranscrit. On réécrit après s'il faut pour que ce soit plus clair après pour réviser.
Donc tu veux dire que quand tu fais tes fiches, tu fais tes fiches en français?
Ouais.
Tu prends ton cours en breton et tu fais ta fiche en français?
Ouais, la plupart du temps.
Et pour vous, c'est pas un problème?
Bah honnêtement, non, c'est pas un problème.
Et puis tous les cours sont pas en breton. Certaines fois, on passe au français. Par exemple, en maths, on fait à peu près une fois sur deux en français. Les exercices pour nous habituer, parce que c'est vrai qu'en maths, les termes sont assez différents quand même. Donc c'est vrai qu'en maths, c'est assez important de changer.
Maths, mathématiques, c'est plus des termes techniques.
Comme quoi, par exemple?
Square.
Carré.
Non. C'est angle droit.
Angle droit.
Square,
oui.
C'est angle droit.
Ça, c'est plus difficile à mémoriser, je trouve, enfin, à retenir. Ouais. Parce qu'on a toujours fait en breton et qu'on n'entend pas ce genre de mots dans la vie de tous les jours.
Alors là, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu te fais des petits pense-bêtes?
Des exercices en français. C'est la seule solution, je pense, pour réussir à assimiler le vocabulaire.
Pour Marie, Alice et Malo, c'est une autre histoire.
Bah, c'est pas le trac par rapport à l'épreuve, mais c'est le trac parce que on a eu tous nos cours en breton et du coup, moi je me rends bien compte que là, par exemple, en SES, j'ai commencé à réviser et j'ai pas du tout le vocabulaire qu'il faut. En maths, ça va à peu près parce que le prof nous a un peu habitués en français, mais en sciences économiques et sociales, on a beaucoup de vocabulaire et comme on a eu tous nos cours en breton, on l'a pas en français le vocabulaire. Et du coup, moi je sais que ça me pénalise un peu pour le bac. Enfin, ça va être dur de rattraper tout ce vocabulaire qu'on a acquis en breton.
Pour moi, c'est un peu pareil. J'ai peur que pendant l'épreuve, j'oublie un mot et que je m'en souvienne seulement en breton et de devoir reformuler ma phrase ou faire un truc comme ça et ne pas avoir un mot qui pourrait être important, un truc comme ça.
Donc, c'est quand même dur de passer son bac en français après toute cette scolarité.
D'un côté, oui, parce que ça nous oblige à finir le programme beaucoup plus rapidement que tous les autres lycées. Je sais qu'on a fini le programme de maths au deuxième trimestre. Et nous avons réappris absolument tout en français pendant le troisième. Et au final, on le voit pendant le bac, pendant les bacs blancs, surtout celui du troisième trimestre qui doit normalement être entièrement français, qu'au final, on en est capable et on y arrive.
Donc finalement, suivre une filière scientifique dans un cursus D1, c'est plus compliqué.
D'un côté, c'est plus compliqué, mais d'un autre côté, j'ai trouvé l'apprentissage en breton de tous les mots techniques beaucoup plus simple. Car ils ont été créés au final il y a très peu de temps et sont assez souvent basiques. Donc ils expriment ce qu'ils doivent être.
Donc tu veux dire que la notion en breton te semble plus accessible que sa traduction en français?
Oui, mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi parce que j'ai suivi toute ma scolarité en breton et que j'y étais habitué depuis tout petit au final.
Bon, vas-y, tu peux bien répondre?
Pour beaucoup d'élèves, la possibilité de pouvoir passer le bac en breton semblerait donc naturelle. Et un collectif a été créé au sein du lycée pour porter cette revendication. Hélas, en mai dernier, il s'est vu une nouvelle fois opposer un refus catégorique. En attendant de voir leurs souhaits exaucés, élèves et professeurs doivent s'adapter. Mais pour Marie Lemaire, professeure de philosophie depuis 10 ans à D1, le passage d'une langue à l'autre pour l'enseignement de sa discipline est un outil supplémentaire.
Je me suis rendu compte que c'est quand même assez difficile de faire des cours de philo en breton, mais ce n'est pas impossible. Pour moi, c'est important aussi de le faire en français, parce que l'exigence de la philosophie est une exigence très rigoureuse. Les termes doivent être précis et utilisés à propos, et ils doivent apprendre à le faire. Alors ça ne veut pas dire que le breton ne peut pas donner des mots justes. Au contraire, parfois même, lorsque je fais des cours de français, je fais des références à des expressions figurées en breton parce qu'elles me semblent plus parlantes pour exprimer ce que j'entends transmettre.
Alors ce qui veut dire qu'il y a des cours que vous faites en breton, des cours que vous faites en français. Qu'est-ce qui détermine l'utilisation ou du breton ou du français? C'est le sujet que vous allez aborder?
Alors c'est la notion. La difficulté de la notion, et c'est le moment dans lequel elle intervient également dans l'année. En début d'année, je le fais en breton un petit peu, après je passe en français, et à un moment donné, au mois de février, nous avons ce qu'on dans le cursus D1, ce qu'on appelle l'ADET, donc c'est le bac D1, où ils passent, ça valide, si vous voulez, toutes leurs années de cursus à D1. Et bien sûr que cette épreuve-là doit être préparée en breton.
Donnez-moi un exemple de notion qui se prête plus au breton.
On pourrait dire la religion, éventuellement, si on voulait aller dans la culture, si on voulait vraiment avoir un lien avec la culture bretonne. Hein, parce que en Bretagne, la mort, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Mais pas forcément avec un regard négatif. Les morts sont là, ils nous donnent des signes. Il y a Mogenou, Mogenou Armaro, les légendes de la mort qui nous permettent d'interpréter un peu le vivant aussi. Lorsqu'on a travaillé sur la notion de désir et de bonheur, qu'on a également fait en breton, j'ai énormément fait référence aux Mogenou, aux légendes, pour que les élèves comprennent le sens du mythe. C'est pas évident de comprendre pourquoi Platon, pourquoi Socrate utilise un mythe pour expliquer alors que l'exigence de la philosophie, c'est d'être purement rationnel. Le mythe semble raconter une histoire, et une histoire qui, d'emblée, n'a pas forcément un sens clair. Le mythe cherche à expliquer quelque chose, à amener une vérité sous forme de légende. Donc les élèves comprennent assez bien la référence au mythe lorsqu'on leur explique cela en référence avec les mots génoux, les légendes bretonnes. Alors je reviens un petit peu sur le cours, mais bon, toute vision différente qu'implique une langue différente, finalement on a une vision différente des choses selon la langue que l'on utilise, amène une richesse dans l'interprétation de la pensée, bien sûr. Ça leur ouvre des portes, si vous voulez, sur la compréhension du monde. En ce qui concerne ma matière, c'est avoir une capacité d'investir tous les chemins possibles pour pouvoir réfléchir. Plus on a de chemins différents pour comprendre le monde, pour comprendre l'homme, pour s'interroger sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure, plus notre questionnement est riche.
Donc on était sur ce sujet-là. Une interprétation peut-elle prétendre à la vérité? On a déjà débattu un petit peu. On va reprendre un petit peu ce qu'on a pu faire et essayer d'approfondir les choses pour comment construire une problématique ensemble.
Si le bilinguisme permet d'ouvrir des portes sur la compréhension du monde et d'enrichir son raisonnement, l'échange est une autre valeur forte de la philosophie d'Iwan. Marie Lemaire.
J'ai eu l'occasion de faire des interventions et surtout de voir un petit peu comment se passaient les cours de philosophie dans les autres écoles. Et je vois bien la différence. Il y a une certaine autonomie dans le lycée d'Iwan qu'on va pas trouver dans un lycée classique. Les élèves sont plus à l'aise, vous êtes rendu compte, hein, pour communiquer, pour soutenir leur point de vue, pour éventuellement dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, ce qui est sain dans un cours de philosophie. L'échange est fondamental pour pouvoir construire un cours. Enfin, c'est de ces manières-là que je le conçois, en tout cas. Les élèves me tutoient, m'appellent par mon prénom, et réciproquement. Alors, le tutoiement n'empêche pas la politesse et le respect. Hein. Le respect ne passe pas forcément par le vouvoiement. Enfin, c'est vraiment la philosophie de Diwan d'être dans ce rapport très, très proche avec nos élèves et avec les enseignants. Moi, je construis mon cours à partir de leur intervention, de la manière où on aura échangé ensemble pour construire éventuellement ou pour répondre à un problème donné, quoi. Et ça, je ne pourrais pas le faire dans un lycée classique. Parce que dans un lycée classique, en général, il y a l'enseignant et il y a les élèves. Et l'enseignement, c'est un petit peu la théorie du vase vide et du vase plein, quoi. L'enseignant qui est un vase plein transmet au vase vide pour le remplir. Et les enseignants sont là pour les accompagner jusqu'au bout. On ne va pas laisser un élève derrière à la traîne, quoi. On va être là pour les emmener tous à leur rythme, vers le meilleur d'eux-mêmes, en fait.
Est-ce que vous retourneriez dans un lycée traditionnel ?
Non, pas du tout, non. Pour ma matière, ça me semblerait difficile d'enseigner dans un lycée classique. Ne pas être dans l'échange, à mon sens, c'est antinomique avec la philosophie. L'échange permet de philosopher et de s'interroger.
Diwan, en breton, c'est la pousse, c'est-à-dire le moment où le germe sort de terre. Mais pour bien pousser et devenir autonome, les élèves ont besoin d'être accompagnés tout au long de leur scolarité. Une philosophie qui semble porter ses fruits puisque le lycée de Carhaix affiche entre 97 et 98% de réussite au bac, contre seulement 90% en moyenne dans l'Hexagone. Des résultats qui ne semblent pourtant pas émouvoir Loïs Donal, le directeur du lycée.
Bon, je ne sais pas si on a d'excellents résultats au baccalauréat. On a des bons résultats au baccalauréat comme beaucoup de lycées, comme énormément de lycées. Mais ce n'est pas un objectif en soi. Évidemment qu'on souhaite le succès, je ne vais pas dire à nos jeunes, mais à chacun de nos jeunes. On ne le met absolument pas en avant. La seule chose que l'on met en avant, c'est l'accompagnement de nos jeunes de la seconde à la terminale. Et ça, j'y tiens. C'est-à-dire que un jeune, s'il le souhaite, si c'est son projet, et il a le droit d'en avoir d'autres, et c'est normal qu'il en ait d'autres, si c'est son projet, il faut qu'on en fasse le maximum pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa scolarité de secondaire. Alors, je crois qu'on y arrive assez bien, parce que il suffit de regarder les chiffres. J'ai 139 terminales cette année qui vont passer le bac. Quand ils sont rentrés en seconde, ils étaient 138. Ça veut dire que certains sont partis parce qu'ils ont eu d'autres projets ou que c'était pas ce qui leur correspondait, mais d'autres sont revenus alors qu'ils n'étaient pas au départ. Donc je pense que ça, oui, c'est quelque chose auquel je tiens. Le résultat au bac, on avait toujours dit que notre objectif c'était d'accompagner les jeunes, tant pis si les résultats avaient baissé. Il se trouve qu'ils n'ont pas baissé. Tant mieux. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont probablement pas trop handicapés par le fait qu'ils ont un enseignement essentiellement en breton, alors qu'ils passent un baccalauréat essentiellement en français. Mais ça, à la rigueur, bon, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner qu'on passe d'une langue à une autre, qu'on ait des cours en breton alors que le bouquin est totalement en français, pourquoi pas des documents en anglais. Voilà. Il n'y a certainement pas une réponse. De toute façon, le breton il est dans une situation qui est celle qu'elle est, avec un nombre de locuteurs qui diminue très rapidement. Il faut que nos jeunes soient à l'aise dans cette langue-là, qui n'est pas obligatoirement leur langue première, qu'ils aient envie aussi de la transmettre aussi. Mais de toute façon, une langue minoritaire, ça a l'avantage pour moi, c'est que elle ne va pas essayer d'écraser l'autre langue. Ça ne peut être qu'une fenêtre ouverte vers le monde. Une langue minoritaire, et c'est important que nous, on développe l'enseignement de telle sorte que les jeunes, ça leur donne une ouverture sur d'autres langues, sur d'autres cultures, que ce soit des cultures majoritaires ou des cultures minoritaires.
Une ouverture qui séduit de plus en plus de parents, puisque les effectifs dans les écoles du réseau Diwan progressent de façon constante chaque année. En 5 ans, ils ont augmenté de 17%. Pourtant, le gouvernement ne semble pas donner de signe de soutien pour l'expansion ni même le maintien du réseau. Pour protester, les défenseurs de Diwan ont organisé en mai dernier une grande manifestation à Rennes. Anna Varichapalin nous explique les principales revendications de la manifestation.
Souvent, on nous oppose des affaires de budget. C'est bien facile d'imposer le budget. On sait bien que les budgets sont contraints partout. Mais je vais prendre un exemple qui est vraiment très flagrant. Il y a une convention État-Région pour la langue bretonne. Et dans cette convention, il est précisé que le nombre de postes au concours, donc au concours spécifique de professeurs des écoles, le concours spécial langue bretonne, le nombre de postes au concours va être augmenté chaque année pour pouvoir aux besoins de l'enseignement bilingue, qu'il soit public, privé ou associatif, Diwan. Et en fait, seul le nombre de postes au concours publics ont été augmentés. Actuellement, on mène un vrai service public sans les moyens du service public et on considère que Diwan fait sa part. A mis en place un système efficace d'éducation depuis 40 ans, anime le territoire, crée des emplois, fait en sorte que les enfants soient de bons brittophones et se débrouillent. Et donc, on estime que l'État doit faire sa part, puisqu'on fait la nôtre. Et là, c'est contractualiser les écoles dès leur création, trouver un système pour pérenniser les emplois non enseignants, avoir une structure qui permette d'avoir des locaux décents et faire que toutes les collectivités concernées puissent verser le forfait scolaire.
Alors Lucie, on le voit bien, ce qui manque ce n'est pas tellement la motivation, ce n'est pas non plus la compétence, bien souvent c'est les sous. Il y a des revendications budgétaires, est-ce qu'elles ont des chances d'être satisfaites?
En ce qui concerne les emplois aidés par exemple, il y a peu d'espoir de voir les revendications aboutir puisque le gouvernement avait fait des annonces dans le sens d'une restriction en janvier 2018.
Mais de toute façon maintenant l'urgence, bah, c'est le bac vu qu'on est au mois de juin.
On est au mois de juin et les premières épreuves du baccalauréat ont commencé cette semaine. Donc on peut souhaiter bonne chance aux 139 terminales du lycée Diwan de Carhaix.
Comment on dit bonne chance en breton? Vous l'avez appris, je suis sûr.
On dit chance vat.
Chance vat. Bah, chance vat à tous. Merci Lucie et merci à tous ceux et toutes celles qui vous ont répondu lors de cette enquête approfondie que vous avez menée, notamment au lycée Diwan de Carhaix, pour la danse des mots que nous retrouverons demain pour une nouvelle émission consacrée à la vitalité de la culture bretonne. Merci donc au réseau Canopée, à RFI et à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amard.